France Inter.
Bonjour à tous, ce sont des médicaments contre les effets de la maladie de Parkinson, mais qui ont aussi des effets indésirables, graves et plutôt inattendus. Addiction au jeu, au sexe, achat compulsif et même acte violent. Bonjour Rosane Le Saint.
Bonjour.
Alors vous avez enquêté sur ces effets secondaires qui font littéralement exploser la vie des patients concernés et de leurs proches. Ils sortent aujourd'hui du silence et certains d'entre eux ont décidé de poursuivre un des laboratoires concernés.
Secret d'info, Benoît Colomba sur France Inter.
Quand il tombe, il se relève toujours. Ainsi va la vie du Suisse Ivo Berson, 51 ans, depuis que la maladie de Parkinson lui est tombée dessus il y a 15 ans. Plus rien ne l'arrête. Chez lui pourtant, tout se passe au ralenti, comme classer ses 20 médicaments quotidiens.
Voilà un extrait de l'émission Stade 2, diffusée en 2021, consacrée à un sportif qui a parcouru plus de 1000 km dans les Alpes malgré la maladie de Parkinson et qui, 2 ans plus tard, succombera à la maladie. Une maladie qui touche de plus en plus de monde, d'où l'importance d'avoir des traitements adaptés, on va y revenir. Et ce qu'il faut préciser d'abord, Rosane Le Saint, c'est que cette maladie, on n'en guérit pas.
Oui, la maladie de Parkinson touche quelque 273 000 Français aujourd'hui. Elle est évolutive et effectivement, on n'en guérit pas. Alors pour vivre avec ces tremblements et ces raideurs, les parkinsoniens prennent des médicaments qui les aident à maîtriser leurs mouvements au quotidien.
Et ces médicaments, comment ils fonctionnent ?
Pour le comprendre, j'ai rencontré le neurologue spécialiste de la maladie de Parkinson, Jean-Christophe Corvol, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
La maladie de Parkinson, c'est la perte de neurones qui sécrète une substance qui s'appelle la dopamine, qui est un neurotransmetteur. Et c'est ce manque en dopamine qui est responsable du ralentissement, de la rigidité et du tremblement. On n'a pas de traitement qui permette de restaurer ces neurones, mais par contre, les traitements, ils remplacent la dopamine qui manque.
Et comme la dopamine, c'est cette molécule dans le cerveau qui régule le désir et le plaisir, ces médicaments qu'on appelle dopaminergiques peuvent également dérégler le système de récompense et ainsi provoquer des pulsions et des addictions. Ça concerne surtout une catégorie de médicaments, les agonistes dopaminergiques.
Et ces addictions, elles concernent notamment un médicament en particulier.
Oui, le Rekip. Près de 50 000 Français atteints de la maladie de Parkinson prennent ce médicament, commercialisé par le laboratoire britannique GlaxoSmithKline, GSK. Stéphane Grange est un cadre francilien d'une cinquantaine d'années. Il a commencé à prendre du Rekip en 2019. Alors au début, tout se passe bien. Ses tremblements se calment, c'est ce qu'on appelle la période lune de miel. Et puis du jour au lendemain, alors qu'il n'avait jamais joué de sa vie, il devient complètement accro aux paris en ligne.
Cette période du jeu compulsif est intervenue sur la période de Covid, en fait. Il n'y avait plus de compétition sportive, en fait, qui était diffusée, enfin qui était mise en ligne. Et tous les championnats de foot, parce que je pariais beaucoup sur le foot, a été suspendu. Et il y avait juste un championnat qui existait malgré tout, c'est le championnat biélorusse. Donc à 5h du matin, dans ma cuisine, je pariais sur des matchs biélorusses. Un exemple d'absurdité de la situation dans laquelle on se trouve quand on est sous l'emprise d'une telle compulsion, en fait.
Une situation qu'il qualifie d'absurde et ses paris sportifs, ils vont lui coûter cher.
Oui, en moins de 2 ans, il va perdre plus de 40 000 euros. Et ça va au-delà des paris en ligne, il multiplie les prêts à la consommation et s'endette à hauteur de 90 000 euros. Et en plus, il doit faire face à un redressement fiscal.
Et ça ne s'arrête pas là.
Oui, les relations intimes avec sa compagne vont également être totalement bouleversées.
J'ai eu ce que les laboratoires appellent parfois un trouble de la libido, qui en l'occurrence se manifestait par le fait de solliciter ma compagne tous les jours, en fait. Je pense que je portais quelque part le côté compulsif en moi. Elle a mal vécu, moi je l'ai mal vécu parce que elle me repoussait, elle avait bien raison. Heureusement, par rapport à ce que j'ai pu lire depuis, le médicament ne m'a pas emmené vers des situations de contrainte ou de violence. Et rien que d'y penser, ça m'effraie. J'aurais pu être en situation de viol, quoi, de viol entre époux. C'est effrayant quand même de dire qu'on est passé à côté de ça. C'est hyper flippant.
Et pour assouvir ses pulsions sexuelles, Stéphane Grange fréquente en permanence des sites pornographiques. Et face à tout ça, son couple va exploser.
Mais est-ce qu'il fait le rapprochement entre son comportement et la prise de ce médicament, le Rekip ?
Pas tout de suite. C'est sa neurologue en fait qui va faire le lien quand il finit par lui raconter ses addictions. Elle diminue alors les doses progressivement pour limiter le syndrome de sevrage et l'anxiété qui peuvent survenir à l'arrêt du traitement. Il faut savoir que ce médicament ne doit pas être arrêté brutalement et sans contrôle médical. Et au fur et à mesure, les obsessions de Stéphane Grange disparaissent.
Et c'est à ce moment-là qu'il se replonge dans la notice du médicament.
Oui, et Stéphane Grange y découvre alors les différents effets indésirables. Sur la notice, il est notamment question d'addiction au jeu d'argent, d'achat compulsif et d'hypersexualité, si ce médicament est pris à forte dose. Mais il n'est pas précisé à quel point ça peut être fréquent.
Comment ça ?
Eh bien, ce qu'on peut lire sur la notice, c'est simplement « fréquence indéterminée ».
Oui, ça reste assez flou, mais est-ce qu'on a une idée plus précise du nombre de patients réellement concernés ?
Oui, et ça grâce aux travaux du neurologue Jean-Christophe Corvol. Avec des fonds publics, il a mené une étude d'ampleur sur l'impact de ces médicaments, et notamment des agonistes dopaminergiques, une étude publiée dans une revue scientifique en 2018, et dont les résultats, vous allez l'entendre, sont assez frappants.
50% des patients qui sont traités par agonistes dopaminergiques vont développer ces troubles dans les 5 ans. Et on a montré que c'était également un effet en relation avec la dose et la dose cumulée. Donc si on prend des petites doses pendant très longtemps ou des grosses doses pendant peu de temps, en fait, on va avoir un risque augmenté de développer ces troubles.
Ah oui, donc un patient sur deux qui prend ces traitements risque de développer des troubles de l'addiction, c'est considérable. Et cette étude, alors, est-ce qu'elle est prise en compte par le laboratoire GSK ?
En tout cas, GSK n'a pas modifié sa notice. Et c'est ce que lui reproche Stéphane Grange, qui souhaite que le fabricant informe plus clairement les patients des risques qu'ils prennent. Et en février dernier, comme l'a révélé le Canard Enchaîné, il a assigné GSK devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Écoutez son avocate, Sophie Maltais.
Je suis choqué et extrêmement attristé de me dire que quand normalement on est un laboratoire dont la finalité est de contribuer à mettre en place des médicaments importants, on soit à ce point dans le déni, sans produire la moindre recherche pour améliorer la gestion des risques dans la prise de ce genre de médicaments.
Et je précise que dans l'affaire qui oppose Stéphane Grange à GSK, les experts estiment que le lien de causalité est certain entre ces troubles et la prise du médicament.
Et quelle est la position de GSK dans cette affaire ?
Le laboratoire a proposé à Stéphane Grange une transaction à 50 000 euros, mais assortie d'une clause de confidentialité. Même s'il est toujours endetté, Stéphane Grange a refusé l'offre de GSK. Pour lui, étant donné la position du laboratoire, il était impensable qu'il échappe à ses responsabilités.
C'est un industriel, grand groupe international, qui met un produit ultra dangereux sur le marché et qui après passe son temps à dire qu'il n'est pas dangereux, que de toute façon c'est rare que le problème arrive, et qui donc, depuis 97, prend son cash médicament sans la moindre réaction qu'on imagine légitime, enfin normale.
Oui, parce que c'est en 1997 que GSK a mis le Rekip sur le marché français. Nous avons contacté le laboratoire qui n'a pas souhaité répondre à nos questions.
Et le cas de Stéphane Grange, il n'est pas isolé.
Oui, écoutez cette femme d'une cinquantaine d'années qui ne souhaite pas dévoiler publiquement son nom, nous l'appellerons Sandrine. Elle vit avec le même compagnon depuis 30 ans et après la prise de ce médicament, elle aussi s'est trouvée submergée par ses pulsions sexuelles.
Ça a augmenté les relations à, on va dire, plusieurs fois par semaine. Mais moi, j'y pensais vraiment tous les jours. J'essayais d'avoir une relation vraiment quotidienne. Au départ, c'était pas gênant pour moi. Mais le problème, c'est qu'après, ça devenait une obsession. Donc, c'était la journée, la nuit, dehors, partout, en fait, dans tous les lieux où vraiment j'essayais d'obtenir une relation, en fait.
Et cette obsession, elle ne concerne pas uniquement le sexe.
Effectivement, Sandrine est également prise d'envie irrépressible de nourriture. Pas de simple craquage de temps à autre pour se réconforter, mais des véritables pulsions incontrôlables.
Je commençais à beaucoup moins dormir la nuit, à grignoter, donc à me lever, à manger du sucré, à manger des brioches, des fruits. Il fallait que je me lève pour manger quelque chose. J'ai pris assez rapidement, on va dire, peut-être 4-5 mois. 6 mois, j'ai pris plus de 10 kilos. Je suis arrivée à quasi 15 kilos.
Et ce n'est pas tout. Sandrine réalise également des achats frénétiques qui n'ont aucun sens, comme par exemple le fait d'acheter une piscine qui va envahir tout l'espace du petit terrain familial. Et puis surtout, Sandrine devient addicte au casino en ligne. Elle y dépense près de 50 000 euros.
À cause d'un traitement, j'ai tout perdu. J'ai perdu toutes mes économies, tout le travail que j'ai fait depuis l'âge de 16 ans. J'ai tout perdu et j'ai fait du mal. J'ai fait du mal autour de moi, à ma famille, à mes enfants. Donc j'ai un crédit en cours et j'ai aussi utilisé l'argent de mon fils, les économies de mon fils. 9 500 euros.
Je le rembourse petit à petit. J'arrive à lui rembourser un petit peu, oui. J'y arrive parce que j'ai toujours bien géré les comptes, donc je fais en sorte de pouvoir lui verser 300 ou 400 euros par mois pour lui redonner son épargne. Mais bon, le mal a été fait.
Et tout ça est lourd à porter, on le comprend bien. Et ce que vous nous révélez, Rosaine, c'est que cette femme, elle aussi, a décidé de saisir la justice.
Oui, d'autant que Sandrine est préparatrice en pharmacie. Elle a l'habitude de lire les notices. Alors qu'elle était au bord du suicide, elle s'est enfin confiée à une amie et c'est elle qui a fait le lien entre son comportement et leur équipe. Sandrine souhaite désormais que GSK informe plus clairement sur ses risques d'effets indésirables qu'elle-même n'a pas vu venir et elle a donc engagé une action judiciaire pour obtenir réparation.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombat.
Alors on a vu que ce médicament, leur équipe, pouvait entraîner de multiples pulsions et provoquer des comportements irraisonnés. Et parfois, Rosaine Le Saint, ça va vraiment très loin.
Oui, et ça on le comprend à travers l'histoire de ce directeur d'un grand site industriel, nous l'appellerons Patrick. Cet homme d'une quarantaine d'années a tout fait pour cacher sa maladie de Parkinson à son entourage. En fait, il n'y avait que sa femme et son supérieur hiérarchique qui étaient au courant. Et comme sa maladie s'aggrave et qu'il ne veut pas que les équipes qu'il dirige remarquent ses tremblements, son neurologue augmente les doses de rééquipe. Sauf que dans le même temps, Patrick développe des pulsions terribles.
C'est-à-dire ?
Ça peut sembler complètement fou, mais ce qu'il soulage, lui, c'est d'appâter les chats avec de la nourriture, ensuite de les coincer entre les genoux pour leur casser les pattes. Malgré la honte, Patrick a accepté de nous raconter son histoire, à condition de faire lire ses propos.
Plus les doses de rééquipe augmentaient, et plus l'envie de m'en prendre à nouveau à des chats reprenait, comme une drogue. Je me suis mis à en capturer en pleine journée. Même quand j'avais des réunions programmées, je partais avec ma voiture de fonction pour en chercher. Si j'ai accepté d'apporter mon témoignage, c'est dans le but d'aider les malades qui ne savent pas dans quel bourbier ils peuvent se trouver avec ces traitements, et que leur famille fasse aussi le lien quand il se passe des événements étranges, parce que les malades, eux, ne disent rien. Je n'ai pas demandé à avoir Parkinson, ni à être drogué, ni à perdre le contrôle de mon cerveau.
Cette histoire paraît effectivement à peine croyable. Et comment elle s'est terminée ?
La police finit par l'arrêter alors qu'il a été surpris en pleine capture de chats. Les propriétaires de la vingtaine de chats torturés et des associations de défense des animaux portent plainte. Patrick est condamné à 18 mois de prison. Et sa vie est complètement chamboulée, comme en témoigne son avocate, Dominique Marie.
Il est surnommé dans la presse, dans les réseaux sociaux, le serial cat killer. C'est la descente aux enfers en réalité, parce que suite à cette condamnation, la vie de Patrick bascule, mais c'est la vie de toute une famille qui va basculer. Il va être licencié d'un emploi qu'il tient depuis plusieurs années sans aucune difficulté. Il va faire l'objet de menaces de la part de certaines personnes. Son image, son nom vont se retrouver publiés dans la presse, dans les réseaux sociaux. Sa famille va se trouver menacée à tel point qu'il va bénéficier pendant plusieurs jours d'une protection de la gendarmerie.
Et cette avocate, elle va reprendre le dossier à zéro et vite s'apercevoir que l'enquête n'a pas vraiment cherché à comprendre l'origine du comportement de Patrick.
Dans cette affaire, il y a une sorte d'hystérie collective. Cette personne va se trouver condamnée alors même que dans le dossier, l'expert psychiatre demande l'avis d'un expert neurologue. et que cette demande qui est faite, elle n'est pas même entendue.
Mais l'avocate de Patrick fait appel et cette fois, un neurologue va rendre une expertise.
Oui, et cette expertise, elle est capitale puisqu'elle conclut que le comportement de Patrick a été provoqué par le médicament. La cour d'appel retient cette fois l'abolition de son discernement et le déclare irresponsable pénalement de ses actes de cruauté envers les chats.
Il est donc blanchi en quelque sorte par la cour d'appel, mais pour l'heure, il ne souhaite pas poursuivre le laboratoire.
Oui, et d'ailleurs, son avocate Dominique Marie le regrette.
Après 3 années de batailles judiciaires, d'insultes, de mort sociale qui s'est faite progressivement, on a une personne qui a du mal à croire que saisir la justice, ça pourrait lui permettre de se voir reconnaître comme victime. Alors je crois qu'il a tort, hein. Moi je crois en la justice. Dans ce dossier-là, la justice, quand elle prend le temps, elle est belle la justice, elle peut être belle.
Donc son avocate parle de mort sociale et justement aujourd'hui cet homme, qu'est-ce qu'il devient ?
Il vit un peu comme un fugitif. Il a déménagé pour protéger sa famille. Et même si son casier judiciaire a été effacé, Patrick n'arrive pas à retrouver un emploi stable, toujours à cause de cette histoire qui lui colle à la peau.
Bien, alors on va s'arrêter là pour le moment, mais restez avec nous. Dans un instant, on va vous raconter comment GSK a tenté de minimiser les effets indésirables de son médicament.
I get caught looking in the mirror on the regular. And what I see there resembles some competitor. I see things behind things behind things. And there are rings within rings within rings. I can't go through. Can't go through the motions. How am I supposed to do this now? Say we went out strolling. Say we went out strolling. Say I went and told them how. I am afraid of changing. And when it comes a time to check and rearrange, there are things behind things behind things. And there are rings within rings within rings. I never lose. And who's the benefactor? And how to move without touching every interactor? When there are things behind things behind things. And there are rings within rings within rings.
Things Behind Things Behind Things, la touche électro-folk de l'américain Justin Vernon et son groupe Bon Iver, extrait de son dernier EP, Sable.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombin.
Et retour à notre enquête sur les effets indésirables des médicaments contre la maladie de Parkinson. On a vu que les patients concernés avaient souvent honte de ces addictions et que les répercussions pour eux et leur entourage étaient considérables. Certains, on l'a dit, ont décidé de poursuivre le laboratoire GSK devant les tribunaux. Et Rosane Le Saint, il y a un précédent.
Oui, un premier patient français s'est attaqué aux géants pharmaceutiques dans les années 2010. Il s'agit de Didier Jambard, un homme marié, vie de famille tranquille, jusqu'à ce qu'il prenne ce médicament, le Rekip. Et à partir de ce moment-là, il commence à échanger avec des hommes sur Internet, il a des relations sexuelles avec eux, des pratiques sadomasochistes, et comme en plus il est devenu accro aux jeux en ligne, il en profite pour leur dérober leur numéro de carte de crédit pour continuer de miser sur Internet. Et il va même jusqu'à vendre les jouets de ses enfants.
Et c'est parce qu'il considère que le laboratoire est responsable de tout ça qu'il a saisi la justice. Et à ce moment-là, il s'attaque un peu à une montagne.
Oui, mais d'ailleurs, l'avocat angevin de Didier Jambard, Antoine Béguin, a reçu plusieurs centaines de documents de la part des avocats de GSK. Leur objectif, c'est évidemment de montrer la bonne foi du laboratoire et peut-être un peu aussi de noyer l'avocat sous cette masse de documents. Sauf qu'en fait, c'est l'inverse qui se produit, comme le raconte Antoine Béguin.
Et la veille de l'audience, un dimanche après-midi, je vois encore, j'ai l'image de cette pile de documents de laboratoire, et je tombe sur une pièce qui est issue du service de pharmacovigilance interne de GSK. Et il est indiqué qu'ils ont repéré un signal d'hypersexualité dans les essais cliniques. Et là, tout d'un coup, le document me tombe des mains, parce que j'ai la preuve qu'au moment des essais cliniques, le laboratoire savait. Et dans la notice, il n'y a rien à ce moment-là. Quand M. Jambard a pris le médicament, il n'y a rien. Pourquoi ?
Et qu'est-ce qu'il est dit précisément dans ce document interne de GSK que l'avocat découvre ?
Eh bien, dans ce rapport daté d'octobre 2003, il est question de la molécule du Rekip, le ropinirol, et des graves effets indésirables qui sont déjà remontés auprès du laboratoire. Écoutez le passage de ce rapport que nous avons fait lire, où il est question d'un homme de 63 ans mis sous ce traitement.
11 mois après le début du traitement par ropinirol, le patient a commis une agression sexuelle, acte de pédophilie sur une fillette de 7 ans, pour laquelle il a été emprisonné. La dose de ropinirol a été réduite à 6 mg par jour dans la perspective d'arrêter le traitement. Le problème de libido du patient a ensuite disparu.
Ah oui, donc non seulement le laboratoire a eu connaissance d'une agression sexuelle sur un enfant par un homme qui avait pris le traitement, mais en plus, le terme utilisé dans ce document interne, c'est un problème de libido.
Oui, ça montre une tendance du laboratoire à minimiser les graves effets indésirables de son traitement. Et d'ailleurs, dans le procès qui opposait Didier Jambard à GSK, les juges l'ont reconnu. En appel, ils ont condamné le laboratoire à lui verser 200 000 euros.
Et ce que vous avez aussi découvert, Rosen, c'est que GSK a pendant un temps envisagé que ce médicament, le Rekip donc, puisse servir à tout autre chose que la lutte contre la maladie de Parkinson.
Oui, en épluchant le répertoire des expérimentations médicales, on s'aperçoit effectivement qu'un chercheur new-yorkais a lancé une étude en 2006 sur le Rekip, non pas pour traiter la maladie de Parkinson, mais la dysfonction sexuelle de patients sous antidépresseurs. Et c'est le laboratoire GSK qui est contributeur de l'étude.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien que dès 2006, GSK est au courant que des recherches sont menées pour découvrir si le Rekip pourrait devenir une sorte de nouveau Viagra. L'effet secondaire de son médicament anti-parkinsonien est perçu comme positif et ouvre la voie à une nouvelle exploitation commerciale. Alors ça n'aura finalement pas lieu, mais ça révolte quand même Sophie Maltais, l'avocate des deux malades de Parkinson qui demande aujourd'hui des comptes à GSK.
On voit bien que quand ils veulent, ils savent chercher, ils savent voir leur intérêt, et en l'occurrence ici, leur intérêt semble plus d'exploiter ce que parfois certains neurologues appellent la période de lune de miel, quand les patients commencent à dire qu'ils ont une sexualité qui se trouve beaucoup plus exacerbée qu'avant, et cette espèce de cynisme ou ce côté un peu graveleux qui consiste à dire « c'est super, de quoi vous plaignez-vous ?» Je pense qu'on devrait interroger beaucoup plus souvent les conjoints des personnes qui prennent leur équipe pour savoir si véritablement cette lune de miel a duré longtemps et si au contraire on n'est pas passé dans le cauchemar des agressions sexuelles ou du viol quotidien.
Et ce cauchemar, ce sont effectivement les proches des malades qui en subissent aussi les conséquences.
Oui, c'est ce qu'a vécu par exemple cette sexagénaire à la fin des années 2010 Son mari, malade de Parkinson, était sous traitement dopaminergique. Elle s'est confiée à nous, mais elle ne veut pas être reconnue. Nous avons donc fait lire son témoignage. Attention, ce qu'elle raconte peut choquer.
Dès le lendemain de la prise du médicament, mon mari, qui était devenu ramollo avec la maladie, très fatigué, a retrouvé un punch incroyable. C'est comme ça que les viols ont commencé. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle, même si on n'en parlait pas à l'époque. C'était avant MeToo. J'ai parlé de ces pulsions sexuelles au médecin qui suivait mon mari. Il m'a répondu « Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire ». La nuit, je dormais en position assise, adossée à des coussins pour pouvoir réagir au quart de tour. Comme je me levais à 4h du matin pour aller à mon travail, il m'arrivait de faire une sieste à la maison et je me réveillais parfois avec mon mari en train de baver sur moi et de me pénétrer. À ce moment-là, on prescrivait ces traitements sans prévenir des risques. Alors oui, le malade ne tremble plus avec son médicament, mais la personne à côté, si.
Et cette femme a fini par s'enfuir du domicile conjugal avec sa fille.
Donc cette histoire assez épouvantable, c'était il y a une quinzaine d'années. Et comment expliquer alors qu'on ait mis autant de temps avant de faire le lien entre les médicaments dont on parle et ces pulsions terribles ?
Eh bien d'abord, parce que les expérimentations sont financées par les laboratoires. Elles ont donc avant tout pour but de prouver l'efficacité du médicament plutôt que d'insister sur les risques. Olivier Rascol est neurologue au CHU de Toulouse et à la fin des années 90, il a mené des essais cliniques sur le Rekip, le médicament de GSK, mais sans avoir conscience qu'il pouvait y avoir ce type de risque. Je précise qu'il était payé par GSK pour faire ce travail. Je lui ai demandé quel était le montant de sa rémunération.
C'était il y a plus de 20 ans, je ne me rappelle pas, c'est difficile comme question. En tout cas, je peux vous dire que ce n'est pas un montant qui aurait été suffisant pour biaiser ma perception du sujet.
Et en tout cas, Olivier Rascol reconnaît qu'à présent, ces risques sont indiscutables et documentés.
Maintenant, si on élargit un peu la focale, Rosen, à partir de quand les autorités de contrôle ont vraiment pris conscience des risques autour de ces médicaments agonistes dopaminergiques ?
Alors, le premier signalement auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, c'était en 1986. Et pour le Rekip en particulier, la première remontée date de 2006.
Et c'est durant cette période qu'un avocat prend contact avec l'ANSM.
Oui, et cet avocat, c'est Antoine Béguin. Vous vous souvenez, c'est l'homme qui a fait condamner GSK.
Oui.
Et il garde un souvenir amer de sa rencontre avec des représentants de l'Agence du médicament en 2008.
On rencontre cette agence en disant « mais il faudrait alerter les patients parce que voilà ce qui se passe ». On a été très mal reçus. C'était juste avant le Mediator et l'agence, les personnes qui nous ont reçus nous ont mis tout ça, on sait. Et quand j'aurais posé la question, alors vous savez, c'est bien, vous allez faire quoi? Et on m'a répondu, rien. J'en suis sorti en étant décontenancé parce que c'était quand même l'agence qui était là pour protéger la population des risques sanitaires. Et on mettait en avant un danger sanitaire et l'agence nous répondait qu'il n'allait rien faire.
Et sur ce point, l'Agence du médicament explique avoir alerté les professionnels de santé sur ces risques à partir de 2009. L'ANSM n'a pas souhaité nous accorder d'interview.
Bon, et du côté des prescripteurs, les neurologues en l'occurrence, est-ce qu'ils ont attendu l'alerte de l'Agence du médicament pour se rendre compte qu'il y avait un problème ?
En tout cas, la neurologue d'Henri David ne l'a pas prévenu de ses effets. Henri David, c'est un homme aujourd'hui âgé de 76 ans. Je suis allée le rencontrer dans son village du Morbihan.
Bonjour, Rosine.
Bonjour, ça va ?
Ça va comme ça peut.
Ouais.
Le problème, la moindre émotion, il m'en faudrait pas. Parce que ça me déclenche des tremblements.
Ah mince, ouais.
Mais à part ça, ça va.
Bon.
J'essaie de positiver toujours.
Entre 1982 et 2008, la neurologue d'Henri David lui a prescrit de nombreux médicaments dopaminergiques, et notamment le plus consommé en France, par plus de 130 000 personnes, le Sifrol. Avec ces traitements, sa personnalité a complètement changé. Voilà ce qu'il faisait la nuit, alors qu'il racontait à sa femme qu'il partait jouer aux cartes.
Je prenais ma voiture le soir et très souvent, je faisais des centaines de kilomètres habillé en femme dans ma voiture, sans savoir où j'allais. Ça me faisait plaisir et j'ai dépensé un fric dingue avec ça. Parce que non seulement je me travestissais, mais pas avec des vêtements de merde. Ce qu'il y avait de mieux. Au départ, j'ai acheté de la lingerie, puis après, ça a débordé. J'ai acheté des jupes, des chaussures à talons, des vêtements féminins.
Et c'est pas tout. Henri David s'est ruiné en multipliant les investissements démesurés. Il a eu des conduites à risque pour lui-même, mais aussi pour les autres, avec de multiples accidents de la route.
Et finalement, alors ?
Quand il comprend enfin que ses troubles peuvent être liés à ses médicaments, là, il décide de poursuivre sa neurologue. Et d'ailleurs, il l'a faite condamner pour défaut d'information. Et comme d'autres malades que nous avons rencontrés, bah, il aurait bien aimé être alerté par les associations de patients.
Et ces associations, de qui on parle exactement ?
La principale, c'est France Parkinson. Et ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 2014, le logo de GSK, notamment, accompagnait certains supports de communication de l'association.
Ah bon ?
Bah oui, parce qu'en fait, le laboratoire en a été le sponsor. Entre 2009 et 2014, France Parkinson a reçu 10 à 15 000 euros par an de la part du fabricant du RÉQIP GSK. L'association a donc continué de percevoir ses financements, même après la condamnation du laboratoire, comme doit bien l'admettre sa directrice générale, Amandine Lagarde, même si elle minimise la portée de ce lien financier.
Le lien financier, il s'est poursuivi parce qu'il est encore une fois lié au financement des actions de sensibilisation et d'information qu'on organisait dans le cadre de la Journée mondiale. Et à l'époque, ça représentait une part infime des ressources. Voilà, ça n'a pas été forcément le sujet premier, mais il n'y a pas eu de démarche à cette époque pour arrêter ces liens. Franchement, encore une fois, ce n'est pas lié à une volonté de prendre position.
Bon, et aujourd'hui, quel est le discours de l'association France Parkinson sur le sujet, alors ?
Eh bien, quand on va sur leur site internet, l'information sur les effets secondaires existe, mais elle n'est vraiment pas mise en avant. Nous avons demandé pourquoi à Amandine Lagarde.
Moi, j'ai demandé aussi à ce qu'on fasse remonter la partie sur agir sur la maladie, donc justement les traitements et donc leurs effets indésirables aussi, qu'on fasse remonter un peu ça dans le menu déroulant qui est sur la maladie de Parkinson, parce que je trouvais effectivement que peut-être ça n'était pas assez visible de suite. Mais en tout cas, notre objectif, c'est de passer cette information et d'être transparent là-dessus, parce que c'est une réalité. Mais notre rôle, c'est d'informer, c'est de soutenir, donc de passer l'information, mais c'est pas d'affoler non plus. On veut alerter sans affoler. C'est pas le but de faire peur aux personnes, parce que très clairement, ça peut faire peur.
Ça peut faire peur, c'est vrai, mais pourquoi cette forme de frilosité ?
Alors j'ai cherché à savoir si c'était lié au financement que France Parkinson perçoit toujours de la part d'autres fabricants d'agonistes dopaminergiques. En l'occurrence, elle a reçu 600 000 euros de leur part depuis 2009.
Ce qui n'est pas rien, et comment elle le justifie l'association ?
Par le manque de moyens. C'est effectivement fréquent que les associations de patients acceptent de l'argent de la part de l'industrie pharmaceutique. Du coup, certaines de ces associations sont donc parfois mesurées quand il s'agit de critiquer les médicaments, surtout quand il n'y en a pas d'autres sur le marché, et même s'ils provoquent de graves effets indésirables.
Et justement, est-ce qu'il existe des alternatives à ces traitements dopaminergiques ?
Côté médicaments, non. Généralement, quand il y a trop de problèmes, les patients sont mis sous levodopa, une molécule qui provoque moins d'addiction. L'activité physique et la kinésithérapie peuvent également être utiles, mais bien souvent, ce n'est pas suffisant pour contrôler les tremblements des parkinsoniens. Et donc, ce qu'ont appris à faire les neurologues, c'est à adapter les dosages des traitements au cas par cas, comme le raconte le professeur Jean-Christophe Corvol.
J'avais un patient qui jouait au jeu de grattage sous traitement dopaminergique. Et il était très consciencieux, donc chaque semaine, il notait combien il dépensait. Ça devenait un petit peu trop, d'après son épouse, par rapport à ses moyens financiers. Et donc, on adaptait les doses, je diminuais les doses en fonction de ce que lui considérait comme étant la somme maximale qu'il pouvait dépenser par semaine.
Et ce qu'on entend, c'est que ce neurologue inclut l'épouse du malade dans sa réflexion.
Oui, et c'est la raison pour laquelle Jean-Christophe Corvol demande à ce que le conjoint ou l'aidant accompagne le malade au moins une fois par an en consultation.
J'avais un patient, par exemple, qui était assez riche et qui achetait des voitures de collection. Et donc, je lui pose la question, comme tous les patients, est-ce qu'il y a des addictions aux achats, aux jeux, machin ? Et donc, il me dit, oui, j'achète des voitures de collection. Mais j'aime ça et c'est mon hobby. Et son épouse se retourne vers lui et dit, ah oui, mais quand même, la dernière fois, t'en as acheté 3 d'un coup. Et c'est là où on se rend compte que le caractère pathologique du trouble peut échapper aux patients et que c'est très important d'avoir l'opinion de l'entourage sur l'impact que ça a et le changement de personnalité, entre guillemets, qui peut se produire au cours du temps.
Et pour aider les neurologues à mieux anticiper ces risques d'addiction et à adapter les traitements, l'équipe du professeur Corvol a mis au point un algorithme de prédiction des profils les plus à risque en fonction de leur âge ou des dosages qui leur sont prescrits. Le tout à l'aide de l'intelligence artificielle.
Un outil comme ça, ça pourrait permettre de mettre un drapeau rouge, une alerte en fait. Et si l'algorithme dit attention, si, là il y a un risque important que d'ici un an il développe un trouble comme ça, ça permettra au neurologue d'adapter le traitement en fonction de ça. Mais il faut montrer que ça marche.
Donc cet algorithme, il doit encore faire ses preuves. Les premiers résultats ne sont pas attendus avant 3 ou 4 ans, d'où l'importance en attendant d'informer davantage sur les traitements anti-parkinsoniens. D'autant plus que le nombre de personnes atteintes par la maladie de Parkinson ne cesse d'augmenter, compte tenu du vieillissement de la population, et aussi parce que l'exposition aux pesticides favorise le développement de la maladie.
Merci Rosane Le Saint pour cette enquête que vous pouvez retrouver en longueur sur notre site et sur l'appli Radio France, avec également une vidéo pour tout comprendre. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert. Il y a la technique Anne-Laure Cochet. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.